Nous allons reprendre avec Bertrand Marshall, que nous avons déjà écouté au séminaire Schaubert avec grand plaisir, et également au séminaire général de l'ITEM, et dont nous redemandons les exposés, et qui a bien voulu venir nous parler de Max Müller, tueur de mythes. Bertrand Marshall, vous savez, est professeur à la Sorbonne et non seulement l'auteur de l'édition de La Pléiade de Mallarmé, mais d'un Salomé entre vers et prose chez José Corti en 2005, que vous trouvez au centre de documentation de l'ITEM. Voilà, nous vous écoutons.
Merci. Vous devez donc avoir sous les yeux trois feuilles, une feuille économique et non recommandée à ceux qui ont une mauvaise vue. Donc c'est la feuille qui reprend les quelques citations sur lesquelles je m'appuierai, puis vous avez deux feuilles moins économiques qui, elles, reprend les rares points de contact entre Flaubert et Max Müller, dans les carnets de Flaubert. Alors, ce que je me propose de faire, c'est un rapide parcours de l'œuvre de Max Müller, qui est à la fois un homme très connu et un homme très méconnu. Évidemment, dans le temps qui m'est imparti, je serai condamné à quelques généralités. Je serai condamné, en somme, à diluer ce qui a été parfaitement résumé par Sylvie Trière tout à l'heure. Vous m'en excuserez. Et je voudrais surtout essayer de faire valoir que chez Max Müller, il y a autre chose que l'image un peu réductrice qu'on en a habituellement. Alors, quelques rappels d'abord. Max Müller, 1823-1900, c'est donc à un an près, il est de décembre 23, un peu plus d'un an, un contemporain à peu près exact d'Ernest Renan, avec lequel il fut très lié après des débuts difficiles dans leur relation. C'est aussi à deux ans près, dans un autre registre, le contemporain de Flaubert et de Baudelaire, ce qui n'est pas indifférent pour nous. Max Müller, c'est le fondateur présumé de la mythologie comparée, ce qui ne veut pas dire qu'il fut le premier comparatiste, puisque le comparatisme est aussi vieux en matière de religion que les religions elles-mêmes. Mais disons que c'est celui qui est considéré comme le véritable fondateur de la discipline scientifique positive de la mythologie comparée au XIXe siècle. Il a été précédé, bien entendu, notamment au XIXe siècle, par d'illustres prédécesseurs, notamment ceux qui ont eu le plus d'importance pour l'histoire de la pensée et aussi pour l'histoire de la littérature. Ce sont Dupuis, l'auteur de L'origine de tous les cultes, à la fin du XVIIIe siècle, et ce fut aussi Kreutzer, dont on a parlé ce matin, bien entendu. Alors, la différence de Müller, c'est que Müller refonde la mythologie comparée sur des bases essentiellement linguistiques. Müller est fondamentalement un linguiste de profession. Ce qui fait que ce linguiste va s'intéresser tout au long de sa carrière, qui fut longue, à trois objets différents. La science du langage, qui est sa discipline première, la science des mythes, sa discipline seconde, et la science des religions, sa troisième discipline. Bien entendu, la science des mythes est le plus souvent évoquée parce que c'est celle qui a donné lieu au plus de débats, mais Müller a pratiqué ces trois objets. Et cette trinité d'objets pose évidemment le problème de la place des mythes, qui nous concerne directement, entre le langage d'une part, la religion d'autre part. Le mythe est en quelque sorte central entre le langage, la question linguistique et la question religieuse. Simplement, s'il est central, ce mythe, il n'y a pas équidistance entre le langage et le mythe d'une part, le mythe et la religion d'autre part. Il n'y a pas équidistance parce que, dans le cas de Müller, il y a un double déplacement fondamental. Le premier déplacement consiste à rabattre, on le sait, le mythe sur la religion, sur le langage, pardon. Et ce rabattement du mythe sur le langage invoque l'existence en grec d'un même mot, qui est le mot « mutos », qui signifie à la fois le mot et le mythe. C'est au nom, en quelque sorte, de cette homonymie que Müller rabat le mythe sur le langage. Et d'ailleurs, lorsqu'il se pose la question de la façon dont il convient d'appeler la nouvelle science du langage, il dit que le terme idéal, ce serait très exactement la mythologie. Simplement, le mot est déjà pris pour désigner tout autre chose. Mais il faut garder à l'esprit que l'entreprise de mythographie chez Max Müller est inséparable de sa réflexion sur le langage. Alors, à partir de ces trois objets, qui sont donc le langage, le mythe et la religion, Max Müller va proposer différentes perspectives, et la première perspective concerne la science du langage. Je voudrais dire quelques mots rapidement de la science du langage chez Max Müller, parce qu'elle est évidemment explicative de tout le reste. Cette science du langage, Max Müller est l'héritier, naturellement, de la grande révolution, de ce qu'on a appelé la grande révolution de la fin du XVIIIe siècle, de ce que Hegel a appelé la découverte d'un nouveau monde, c'est-à-dire la parenté du grec et du sanskrit, du grec, du latin, du sanskrit, du germanique, du persan, etc. Il est l'héritier de cette première révolution qui a abouti à la deuxième révolution, celle de la grammaire comparée, illustrée par Franz Popp. Et au fond, la mythologie comparée, c'est la troisième révolution, issue des deux premières. Et en cela, Max Müller est l'héritier direct de Franz Popp, dont il a été l'élève à Berlin. Il est l'héritier aussi de Birnouf, dont il a été l'étudiant à Paris. Et s'il est allé en Angleterre, c'est très largement pour une raison aussi professionnelle, c'est pour sa traduction des Védas. Il est allé consulter les manuscrits qui avaient été collectés par celui qu'on considère comme l'inventeur de l'indo-européen, l'anglais William Jones, les manuscrits déposés à la Compagnie des Indes. Et c'est la raison pour laquelle cet Allemand s'est transplanté en Angleterre et est devenu un Anglais d'adoption, même s'il a toujours gardé sa nationalité germanique. L'objet de cette science du langage, ce ne sont pas les langues. Comme l'indique bien l'appellation, il s'agit de la science du langage, la singularité du langage, et non pas de la pluralité des langues. C'est le langage qui est l'objet de cette science nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'interroger sur son origine, sur sa nature, sur sa fonction, sur sa fonction notamment d'organe de la pensée. Ce sont les termes que Max Müller emploie. L'appellation. On sait que l'appellation de science du langage, c'est Max Müller qui l'a imposée avec ses leçons sur la science du langage, publié en 1861-1864, leçon sur la science du langage et une nouvelle leçon sur la science du langage qui furent d'abord des conférences à Oxford. Donc c'est lui qui a imposé, par rapport à d'autres appellations possibles, la notion de science du langage. Il a récusé, par exemple, le terme qui avait cours en France, qu'il trouvait peu élégant, le terme de linguistique. On sait quelle aura été la revanche de ce terme par rapport à la science du langage. Surtout, la notion de science du langage, il l'oppose à la philologie traditionnelle. Et cette opposition repose sur l'idée que, dans la philologie traditionnelle, le langage est essentiellement un instrument. Un instrument par lequel on vise autre chose que la question linguistique. Autrement dit, la philologie traditionnelle est une science historique. Elle fait partie des sciences de l'homme. Alors que la science du langage dans l'esprit de Max Müller a une toute autre nature dans la mesure où le langage n'y est plus simplement un instrument, il devient l'objet même de la science. La particularité de la science du langage, qui est d'une certaine façon par cela même la science des sciences, c'est que le langage y est à la fois l'instrument et l'objet. C'est donc une science réflexive. Et surtout, par cette même particularité, la science du langage, pour Max Müller, ne fait pas partie des sciences de l'homme. Ce n'est pas une science humaine et ce n'est pas une science historique. C'est, par conséquent, une science naturelle. Elle est à classer parmi les sciences naturelles. Pourquoi ? Parce que le langage n'est pas une création de l'homme. C'est un produit de la nature. Je parle là encore du langage et non pas des langues historiques. Les langues relèvent de l'histoire. Le langage ne relève pas de l'histoire, il relève de la nature. C'est la raison pour laquelle Max Müller n'emploie pratiquement jamais le terme d'histoire du langage. Il préfère le terme de développement. Et non seulement il utilise la notion de développement pour le langage, plutôt que la notion d'histoire, mais encore il est l'un des premiers à transporter en quelque sorte au nom de son optique naturaliste la notion de sélection naturelle dans sa conception du langage. C'est-à-dire qu'il emprunte à Darwin la notion de sélection naturelle pour le langage. Et il fait souvent référence à Darwin dans ses études sur le langage. Voilà en quelques mots, très sommairement, la perspective de Max Müller et ce qui fait surtout sa singularité par rapport à ses contemporains en matière de science du langage. Le plus important pour nous, c'est évidemment la science des mythes. Cette science des mythes, c'est pour l'essentiel la transposition de la révolution linguistique que j'évoquais tout à l'heure à la mythologie. Et la clé est la même. De la même façon que pour la grammaire comparée, c'est la parenté du sanskrit qui avait donné la clé de cette grammaire comparée, pour la mythologie comparée, c'est la mythologie des Védas qui va donner la clé. Et si j'utilise le terme de clé, c'est parce que c'est le mot qu'utilise constamment Max Müller, avec évidemment le côté nécessairement réducteur d'un tel terme, mais qui n'apparaît pas comme réducteur à l'époque où il est utilisé, c'est la mythologie des Védas qui donne donc la clé de la mythologie indo-germanique, puisqu'on parle plutôt à l'époque, au moins chez les linguistes d'origine allemande, d'indo-germanisme plutôt que d'indo-européen. Le point de départ que Max Müller ne cesse de répéter de son entreprise de fondation de la mythologie comparée, c'est une équation. Une équation fondée précisément sur la parenté des langues. Cette équation, c'est Diaus Pitar en sanskrit égale Zeus Pater en grec égale Jupiter en latin. Pourquoi ce point de départ, que l'on retrouvera d'ailleurs dans un autre domaine, celui de la science des religions? Pourquoi ce point de départ? Tout simplement parce que il permet de mettre en évidence l'insuffisance de la philologie traditionnelle. La philologie traditionnelle travaille dans le domaine exclusif du grec. Et par conséquent, elle s'acharne en vain à chercher l'étymologie du mot « Zeus », qu'elle ne trouve pas. Alors que la découverte de la parenté du sanskrit va permettre de voir immédiatement cette étymologie du mot « Zeus ». C'est l'étymologie du mot « Diaus », parce que le sanskrit, on le sait, est beaucoup plus proche de son étymologie et par conséquent transparent. « Diaus », qu'est-ce que c'est? C'est le nominatif d'un mot sanskrit « Diu », D-Y-U, qui signifie à la fois « le jour » et « ce qui brille ». C'est le mot qui désigne le ciel. Et par conséquent, nous avons là la clé de la déconstruction mythologique, à savoir que derrière les noms des dieux, il y a des phénomènes naturels. Derrière le noumen, pour reprendre la fameuse formule qui a tant servi à l'époque, il y a le nomen. Voilà par conséquent le point de départ de cette déconstruction mythologique de Max Müller. Alors, je vous renvoie aux citations, mais je ne ferai pas le renvoi systématique pour gagner du temps. À partir de cette identification de l'étymologie naturaliste de la mythologie, il y a eu un débat dans le monde des spécialistes entre deux doctrines différentes, on le sait, la doctrine d'Adalbert Kuhn et celle de Max Müller. S'il est vrai que ce sont les phénomènes naturels qui sont à l'origine de la mythologie, quels sont ces phénomènes naturels? La théorie de Kuhn, c'était que c'était les phénomènes violents de la nature, en particulier les orages, les éclairs, etc. Alors que pour Max Müller, ce sont les phénomènes permanents, c'est l'éternel conflit de la lumière et de l'ombre, du jour et de la nuit. Et on sait, bien entendu, que c'est la théorie de Müller qui devait s'imposer, et qui devait s'imposer durablement tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle. À l'origine de la mythologie, il y a donc un premier phénomène qui est celui de la figuration. La mythologie procède de la nature figurative, figurée, de la langue. Mais la figuration n'est pas seule à expliquer la mythologie. Comme l'a rappelé Sylvie Trière, pour qu'il y ait mythologie, il faut bien entendu qu'il y ait figuration, mais il faut aussi qu'il y ait oubli de la signification, oubli de la figuration. C'est-à-dire, il faut prendre au sens littéral ce qui est en réalité figuré. Cette figuration est donc essentielle, et c'est parce que la figuration est l'élément fondamental du langage que la mythologie est possible. La figuration est l'élément fondamental du langage parce que c'est un principe économique de développement du langage. La linguistique du XIXe siècle met en évidence qu'à l'origine des langues, en tout cas des langues indo-européennes, il y a un petit stock de racines, un stock limité de racines, et c'est à partir de toutes ces racines, de ces quelques racines, que se sont développées toutes les langues de l'ère indo-européenne. Comment, à partir de ce petit stock, est-on passé à cette infinité de langues? Précisément par le phénomène de la figuration, c'est-à-dire, pour utiliser un autre mot, celui de la métaphore. La métaphore est donc le procédé essentiel de développement du langage, en même temps que le procédé essentiel qui crée de la mythologie. Max Müller distingue deux types de métaphores, la métaphore radicale et la métaphore poétique, parce qu'il inscrit évidemment son développement de la mythologie dans un développement du langage, et qu'il distingue quatre grandes périodes dans le développement du langage. La première période, c'est la période dite rhématique, c'est-à-dire la période des racines. La deuxième période, c'est la période des dialectes. La troisième période, c'est la période dite proprement mytho-poétique, c'est-à-dire la période de création des mythes. Et la quatrième période, c'est la période des nations. Donc, la période proprement mythopoétique, c'est la troisième période. Naturellement, c'est un découpage théorique et sommaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création mythologique avant ni après. Mais c'est un moyen de repérage commode pour Max Müller. Donc, la métaphore radicale, c'est celle qui intervient avant la formation des mots, au moment du passage des racines aux mots. Tandis que la métaphore poétique n'intervient qu'une fois les mots constitués, pour décrire, par exemple, les phénomènes naturels. Et bien entendu, la mythologie procède à la fois de la métaphore radicale et de la métaphore poétique. À cela vient s'ajouter un double phénomène tout aussi essentiel pour la compréhension de la mythologie. C'est d'une part le phénomène d'homonymie et d'autre part le phénomène de polyonymie. Polyonymie ou encore, comme dit Max Müller, de synonymie. Alors évidemment, le terme de synonyme nous est plus familier, mais le terme de polyonymie est plus révélateur, plus indicatif de la nature du phénomène. Qu'est-ce que l'homonymie, qu'est-ce que la polyonymie ? Il y a homonymie chaque fois qu'il y a métaphore, c'est-à-dire qu'on utilise pour désigner un autre objet le même mot. C'est un transfert d'un mot sur un autre objet. C'est un phénomène constant dans toute histoire de la langue. La polyonymie, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire que pour un seul objet, on va utiliser différents noms. Tout simplement parce que cet objet peut recevoir différents attributs. Et ces différents attributs, sont des polyonymes. Quand la mythologie se produit-elle ? Quand il y a, d'une part, confusion des homonymes, puisque des objets différents portent le même mot. Quand il y a, d'autre part, éclatement des polyonymes, c'est-à-dire autonomisation des polyonymes, qui ne sont plus perçus comme rattachés à un même objet originel. Alors, la confusion des homonymes, exemple donné par Max Müller, exemple célèbre, vous avez en sanskrit une racine arc, pour un indo-européen plutôt, une racine arc, A-R-K, qui est à la base du grec arctos, l'ours, du latin ursus, et du sanskrit riksha, R-I-K-S-H-A. Or, cette racine signifie briller. Elle se rattache à la notion de brillance. Et cette même racine, arc, a servi à former deux mots, au moins, en sanskrit, deux mots qui sont en fait deux homonymes. C'est-à-dire ce sont deux mots distincts, mais qui ont exactement la même forme. Ces deux mots sont riksha, R-I-K-S-H-A. Le premier signifie ours à la peau brillante. Donc c'est un mot qui a été donné à l'ours parce qu'il a la peau brillante. Le deuxième signifie étoile. Quand il y a confusion des homonymes, cela crée naturellement le mythe de la grande ours. Quant à l'éclatement des polyonymes, à partir du moment où il y a autonomisation de ces polyonymes par rapport à ce qui était leur support, eh bien il est au fond l'origine d'une certaine forme de polythéisme. Le soleil, par exemple, le nom du soleil recevait de multiples attributs. Le soleil qui brille, le soleil qui lance ses flèches, etc. Tous ces attributs, à partir du moment où ils n'ont plus été compris à cause du développement du langage, à cause du renouvellement dialectal, comme dit Max Müller, tous ces attributs n'ont plus été perçus comme des attributs, mais comme des noms propres. Ce qui fait que le soleil, le nom du soleil, a pu générer de multiples avatars, des noms qui sont devenus en quelque sorte des dieux. Voilà comment de simples appellatifs, là aussi pour utiliser le terme de Max Müller, des nomina sont devenus des noumina. Donc phénomène d'homonymie et de polyonymie. Il en résulte que dans l'histoire des mythes, il faut distinguer deux niveaux, celui du mythe premier et celui du mythe second. Le mythe premier, c'est celui qui tient à la formation même du langage. Par exemple, dans le cas du mythe d'Apollon et de Daphné. Comment s'explique ce mythe ? C'est évidemment un mythe solaire. Et ce mythe solaire s'explique très simplement parce que Daphné, c'est le même mot que Dahana en sanskrit qui signifie l'aurore. Autrement dit, c'est toujours l'amour du soleil pour l'aurore. Voilà le mythe primaire, le mythe premier. Mais il y a aussi un mythe secondaire qui vient se surajouter au mythe premier. Le mythe secondaire, c'est évidemment la tentative de rationalisation dans l'après-coup par les contemporains qui veulent rendre compte d'une histoire absurde. Par exemple, le mythe secondaire dans le cas d'Apollon et de Daphné, c'est à partir du moment où le mot Daphné signifie laurier, inventer toute cette histoire de la nymphe transformée en laurier. Donc il y a bien deux niveaux à distinguer, le mythe premier qui s'explique par la formation du langage et le mythe secondaire qui est une reconstruction ou une rationalisation a posteriori. On conçoit évidemment que ce système aboutisse à une forme de déconstruction radicale de la mythologie. Et quand on dit déconstruction, là encore je rejoindrai ce qu'a dit Sylvie Trière tout à l'heure, c'est une déconstruction pratiquement sans reste. Max Müller l'a dit et redit, c'est sa formule sans doute la plus célèbre, le mythe c'est une maladie du langage. Alors que traditionnellement la mythologie avait suscité des interprétations, la mythologie, pour Max Müller, ne se prête à aucune interprétation, ni allégorique, ni symbolique, ni philosophique, ni morale. Aucune interprétation n'est tenable. Je vous renvoie par exemple à la citation qui figure sur la feuille économique. C'est la quatrième formule. Ni la morale, ni la philosophie, ni l'histoire, ni la religion n'ont échappé au charme de cette antique sibylle, mais la mythologie n'est ni la philosophie, ni l'histoire, ni la religion, ni l'éthique. C'est, pour employer une expression scolastique, un quale et non un quid, une forme et non quelque chose de substantiel. C'est donc quelque chose de parasite. C'est une réalité parasite qui ne contient rien, qui est en quelque sorte vide de sens. Même si cette réalité parasite s'attaque à des domaines très nombreux, qu'il s'agisse de la langue, de la religion, de la philosophie, etc., en tant que telle, la mythologie n'a pas de signification. Cette déconstruction radicale, on peut dire qu'elle procède d'un certain esprit positif de l'époque, bien entendu, c'est un reflet du positivisme. Le mythe est complètement discrédité. Mais ce discrédit n'est pas seulement un discrédit de nature positiviste, il s'accompagne aussi, du moins dans le discours de Max Müller, et pas seulement de Max Müller, d'un discrédit moral. Au fond, le mythe apparaît comme une véritable monstruosité. Monstruosité non seulement linguistique, mais monstruosité morale. Pourquoi ? Parce que les histoires qu'on rapporte sur les dieux sont des histoires totalement immorales, ce sont des histoires d'adultère, ce sont des histoires de conflits, de fils qui couchent avec leur mère, etc., etc. Donc il y a une immoralité profonde de la mythologie, et la science, d'une certaine façon, se fait ici l'auxiliaire des bonnes mœurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un temps qui est celui de la société victorienne. C'est aussi exactement l'époque du procès intenté à Flaubert et à Baudelaire, toujours pour le même grief, outrage aux bonnes mœurs, et la mythologie fait outrage aux bonnes mœurs. Pour une fois, la science vient au secours de la morale. Alors évidemment, on pourrait s'en tenir là et considérer que finalement, le point de vue de Max Müller est assez réducteur, il a été relativement vite abandonné, même s'il a prévalu pendant des décennies. Mais il ne faudrait pas en rester à cette vision réductrice, d'abord parce qu'il y a d'autres aspects que cette dimension-là dans l'œuvre de Max Müller. Et parmi ces autres aspects, il y a la question qui se pose du devenir du phénomène mythologique au-delà de la période antique. Et c'est évidemment une question qui a une évidente actualité au XIXe siècle, de même qu'au XXe siècle. Est-ce que la mythologie ne concerne que l'Antiquité ? Alors, bien entendu, la victime du positivisme de Max Müller, c'est essentiellement la mythologie antique. Et dire la mythologie antique, c'est presque un pléonasme à l'époque. Il n'empêche que, même s'il y a bien cet esprit positif, même s'il y a bien cette espèce de regard condescendant du moderne vis-à-vis d'une primitivité qui est évidemment perçue de façon péjorative. Il y a aussi autre chose. Pour regarder, pour avoir une idée de ce regard condescendant, je vous renvoie par exemple à la citation 9, toujours les essais de mythologie comparée. Il faut faire un certain effort pour arriver à comprendre cela clairement, parce que dans nos langues modernes, où chaque chose a son mot propre qui le désigne et où chaque nom est exactement défini, un malentendu mythologique est presque impossible. Donc a priori, il n'y a pas de mythologie moderne. Et pourtant, dans ses nouvelles leçons sur la science du langage, Max Müller consacre un long chapitre à ce qu'il intitule la mythologie moderne. Il y a donc une mythologie moderne. Quelle est cette mythologie moderne? Que faut-il entendre par mythologie moderne? On le voit ici dans cette citation, la mythologie moderne, c'est celle des langues modernes, comme la mythologie antique, c'est celle des langues antiques. Alors, mythologie moderne ne veut pas dire nécessairement mythologie actuelle. Cela veut dire la mythologie dans le développement des langues modernes, par exemple l'anglais, l'allemand, etc. C'est-à-dire les langues filles et non plus les langues mères. Et naturellement, Max Müller montre que, même si le phénomène est moins évident dans les langues modernes, il y a aussi une mythologie des langues modernes. Il en trouve de nombreux exemples, dans les proverbes par exemple, dans les noms propres, notamment dans le domaine anglais. Mais il identifie tout particulièrement un domaine qui relève à ses yeux de la mythologie moderne, et ce domaine c'est celui dont on a parlé ce matin, c'est celui de la géographie. La géographie, particulièrement la légende dorée, bien entendu, ce qui touche par conséquent à un troisième domaine, celui de la religion. Et pour illustrer cette présence d'une mythologie dite moderne dans la géographie, à qui va-t-il renvoyer? C'est un point de contact avec Flaubert, à Alfred Maury. C'est-à-dire, il renvoie aux essais sur les légendes pieuses du Moyen-Âge. Et parmi les exemples qu'il cite, de ce point de vue, là aussi il se rencontre avec Flaubert, il cite l'exemple d'Ursula, de Sainte-Ursule et de ses 11 000 vierges, qui en réalité ne renverraient, selon Maury, qu'au nom de la compagne d'Ursule, Undécimella, dont le nom, le prénom, aurait été pris par conséquent pour un nom de nombre, 11 000. Il cite d'autres exemples qu'il emprunte quasi systématiquement à Alfred Maury, même si, par ailleurs, il a une vision un petit peu péjorative d'Alfred Maury, qui pour lui est un amateur. Mais l'amateur, en l'occurrence, peut servir aussi le professionnel. Donc il y a ce premier aspect de mythologie moderne dans la géographie, et il va de soi qu'à ses yeux, s'il est une religion qui est plus particulièrement affectée par la mythologie, puisque la mythologie affecte tous les domaines, c'est le catholicisme romain. Müller, il ne faut pas l'oublier, est un luthérien problématique, mais il est un luthérien quand même. Donc il a un préjugé assez marqué, celui de toute son époque aussi, contre le catholicisme romain. Au-delà de cet aspect de mythologie moderne perçu dans la géographie, il y a aussi une autre mythologie moderne qui nous intéresse davantage et qui, elle, est une mythologie actuelle. Cette mythologie est redéfinie ainsi par Max Müller. Qu'est-ce que la mythologie lorsqu'elle sort des limites de la mythologie antique ou de la mythologie qu'on peut repérer dans la géographie? C'est la citation 11. Je comprends sous ce nom, mythologie, tous les cas où le langage usurpe une puissance indépendante et réagit sur l'esprit au lieu d'être ce qu'il devrait être par sa nature, la simple traduction et l'expression par une forme extérieure et sensible des conceptions de l'esprit. C'est une conception qui peut nous paraître assez réductrice, là aussi. C'est une espèce de non-adéquation du mot à la chose. C'est une usurpation du langage, une usurpation des pouvoirs du langage. Mais cela le conduit à repérer de la mythologie dans bien des endroits où l'on ne penserait pas nécessairement à de la mythologie. Et là, nous avons un point de vue qui est peut-être plus moderne. C'est la citation 12. Le langage conserve encore sous une forme différente sa secrète magie. Et s'il ne crée plus des dieux et des héros, il crée bien des noms qui sont les objets d'un culte semblable. Vous supprimez le « en trop. Au fond de presque toutes nos controverses philosophiques et religieuses se trouvent des mots dépourvus d'une signification définie. Et les sciences dites exactes se sont laissées égarer, elles aussi, par cette même voix de sirène. Des termes tels que la nature, avec un N majuscule, le droit, la liberté, la nécessité, le corps, la substance, la matière, l'église, l'état, la révélation, l'inspiration, la connaissance, la croyance, sont lancés de tous côtés dans les guerres de mots, comme si tout le monde en connaissait la signification et les employait dans le même sens. Autrement dit, la mythologie s'oppose au concept clair et précis. Dès que le langage est vague, dès que les mots ne sont pas suffisamment précisés, il y a un risque de mythologie, et par conséquent, la mythologie est partout. Nous sommes saturés de mythologie, tous nos discours sont saturés de mythologie. Et là, nous avons sans doute un point de vue infiniment plus moderne que celui qu'on reconnaît habituellement à Max Müller. Voilà donc la mythologie moderne qui est un aspect qu'on ne relève pas souvent chez Max Müller. Je ne développe pas faute de temps. Je voudrais simplement en venir au troisième aspect de sa réflexion, celui qui concerne la science des religions, parce que, paradoxalement, c'est celui qui nous permettra de retrouver Flaubert. Ce n'est pas par la science des mythes, ni par la science du langage qu'il rencontre Flaubert plus directement, c'est par la science des religions. Alors, ce troisième aspect, touchant la science des religions, le point de départ, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la mythologie n'est pas la religion de l'Antiquité. La mythologie n'est pas la religion de l'Antiquité, et cependant, il y a une religion de l'Antiquité. Il y a des religions, évidemment, dans l'Antiquité. Il y a une religion grecque, il y a une religion latine, etc., etc. L'une et l'autre, religion et mythologie, on l'a dit, sont radicalement dissociées. Et cette dissociation est d'autant plus radicale et paradoxale que cette dissociation se fait sur le fond d'une homonymie absolue. Autrement dit, ce sont les mêmes mots qui disent à la fois la mythologie et la religion. Ce sont les mêmes noms. Le mot Zeus est à la fois le nom d'un mythe et le nom d'un dieu authentique. Mais il ne faut pas confondre le mythe et le dieu. Et c'est cela l'élément fondamental de la réflexion de Max Müller. C'est-à-dire que discréditer la mythologie, ce n'est pas, par la même occasion, annuler la religion. Le discrédit de la mythologie permet au contraire de retrouver la religion authentique des anciens. Car il y a une religion authentique des anciens. Et de ce point de vue, le point de départ que j'évoquais tout à l'heure pour la science du langage vaut aussi pour la science de la religion, c'est-à-dire que le même point de départ est celui de l'équation Diaos Pitar égale Zeus Pater égale Jupiter. Ce point de départ est le même parce qu'il provoque deux révélations fondamentales. Du point de vue de la science du langage, la révélation, c'est la révélation de la clé étymologique naturaliste des mythes. Mais du point de vue de la science des religions, il y a aussi une autre révélation. Une autre étymologie, ce n'est plus l'étymologie naturaliste des mythes, c'est l'étymologie du sentiment religieux. Évidemment, ce qui apparaît dans cette étymologie du sentiment religieux, c'est la figure du ciel père. Diaos, Pitar, Zeus, Pater, Jupiter. Je vous renvoie ici à la plus longue citation qui figure sur la deuxième partie de la feuille, qui est très révélatrice, mais qu'il ne faudrait pas interpréter de façon trop réductrice. Diaos ne signifiait pas le ciel bleu, il n'était pas seulement le ciel personnifié, il voulait dire autre chose. Nous trouvons dans les Védas l'invocation Diaos Pitar, le Zeus Pater des Grecs, le Jupiter latin. Et cela signifie dans ces trois langues ce que cela signifiait avant qu'elles ne se séparassent. Cela signifie le Père qui est aux cieux. Ça, c'est la traduction française. En anglais, c'était Heaven Father. Ces deux mots ne sont pas seulement des mots. Ils sont, à mon sens, le plus antique poème, la plus antique prière de l'humanité, ou du moins de cette partie de l'humanité la plus noble de toutes, celle à qui nous appartenons. Nous ne songions guère en entendant d'abord le nom de Jupiter dégradé par Homère et Ovide et réduit à l'état de mari grandeur ou d'amant infidèle, au trésor sacré de souvenirs enfermés dans ce nom vénérable. Nous ne cesserons de trouver de pareils enseignements dans la science des religions et d'y apprendre que le terrain où nous nous plaçons, que nous explorons, est un terrain sacré. Des milliers d'années se sont écoulées depuis le jour où les nations ariennes se séparèrent pour émigrer vers le nord et le midi vers l'ouest et l'est. Elles ont chacune créé une langue, elles ont fondé des empires et des philosophies, elles ont toutes construit des temples et ensuite les ont rasés. Elles ont toutes vieilli et sont devenues peut-être plus sages et meilleures, mais lorsqu'elles cherchent un nom pour exprimer ce qu'il y a de plus élevé et en même temps de plus cher à chacun de nous, lorsqu'elles veulent exprimer à la fois le respect, l'amour, l'infini et le fini, elles ne peuvent faire que ce que faisaient nos ancêtres lorsque, levant leur regard vers le ciel éternel, et laissant la présence d'un être à la fois éloigné et voisin. Traduction française réductrice, le texte anglais c'est « of a being, as far, and as near can be ». Elles ne peuvent que combiner les mêmes mots et redire la prière ariane primitive, l'invocation de ciel père, sous la forme qu'elle revêtira à travers les siècles, notre père qui êtes aux cieux. Cette fois, c'est bien dans le texte originel. Alors on pourrait dire, bien entendu, il y a une espèce de téléologie chrétienne dans cette relecture de la religion ancienne, mais il ne faut pas s'arrêter là, j'y reviendrai. En tout cas, pour ce qui est de la classification des religions, dans cette science des religions que Max Müller pratique, la classification des religions doit se faire sur la base de la classification des langues. On rejoint, évidemment, la trinité langue, mythe, religion. Autrement dit, les religions doivent être envisagées dans leur domaine linguistique d'origine. Le domaine arien, le domaine sémitique, le domaine touranien. Même s'il y a évidemment des religions qui vont changer de domaine. Puisque, par exemple, le christianisme issu du domaine sémitique va aboutir au domaine indo-européen, comme le bouddhisme issu du domaine arien va passer dans le domaine touranien. Touranien, c'est la troisième grande famille contestée par les contemporains, mais dont Max Müller a toujours défendu l'existence. Classification donc linguistique des religions, et là aussi c'est un aspect essentiel. Alors qu'est-ce que la religion pour Max Müller? Qu'est-ce que la religion dans cette science des religions et de la religion, comme il y a science des langages, science des langues et science du langage? La religion, c'est deux choses différentes. C'est d'une part un corps de doctrine, c'est le corps de doctrine des religions instituées, plus ou moins dogmatiques, et c'est d'autre part un autre aspect fondamental que Max Müller appelle, d'une expression qui sera l'objet de multiples débats, ce qu'il appelle la faculté de foi ou la faculté de l'infini. Et d'ailleurs, lorsqu'il reviendra sur cette appellation de faculté de foi ou faculté de l'infini, qui prête évidemment à de multiples contestations, il dira que s'il avait pu utiliser en anglais l'expression de not yet, comme non, il aurait dit, non pas la faculté de foi, mais le not yet, donc le pas encore de la foi, ou le pas encore de l'infini, pour éviter de donner le sentiment qu'il y a quelque chose d'inné en l'homme, une espèce de faculté, véritablement, alors que c'est plutôt de l'ordre du pas encore. Je referme cette parenthèse. Donc, il y a cette dualité du religieux, d'une part, les corps de doctrine, les religions instituées, d'autre part, la faculté de foi. Les corps de doctrine sont l'objet de ce qu'il appelle la théologie comparée, comme il y a une philologie comparée. C'est la science des religions. Et puis il y a cette faculté de foi qui est l'objet essentiel de la science de la religion, qui est évidemment fondamentalement distincte de la science des religions. Dans cette perspective d'une science de la religion, Max Müller va donc s'interroger sur l'origine du phénomène religieux et on rejoint les débats de tout à l'heure et de ce matin. Qu'est-ce que l'origine du fait religieux ? Et non seulement on rejoint ce qui a été dit ce matin, mais c'est là qu'on rejoint Flaubert. J'ouvre la parenthèse donc à propos de Flaubert. La seule attestation, à ma connaissance, mais vous en savez sans doute plus que moi, d'un contact direct entre Flaubert et Max Müller, c'est dans les carnets, dans le carnet 15. Cette citation, ces deux citations qui sont reproduites sur les deuxième et troisième feuilles, c'est le feuillet 48 du carnet 15. J'ai reproduit le feuillet tel que l'a reproduit Pierre-Marc de Biasi dans son édition des carnets. Contre la révélation, demandez à un prêtre à Chantilly d'où il sait que son fétiche n'est pas une pierre ordinaire, mais quelque chose d'autre. S'il répond que le fétiche lui-même le lui a dit, le lui a révélé, que lui répondrez-vous ? C'est l'argument sur lequel repose la révélation. D'où l'homme sait-il qu'il y a des dieux ? C'est que les dieux eux-mêmes le lui ont dit. Référence donnée par Flaubert lui-même, Max Müller, origine de la religion. Et puis le feuillet 49, n'attendez pas de la poésie au sens moderne du mot, ces vieux poètes n'avaient pas le temps de chercher des ornements poétiques ou de belles et brillantes expressions. Ce qu'ils cherchaient au prix de tous leurs efforts, c'était l'expression juste de ce qu'ils sentaient. Une expression heureuse était pour eux un véritable soulagement. Max Müller, origine de la religion, page 255. Bon, et puis ces deux lignes qui suivent. Alors, dans les carnets, Pierre-Marc de Biasi date ce carnet 15 de la période 1869-1874, avec un point d'interrogation, tout en soulignant évidemment que la datation des carnets est problématique et que dans un carnet d'une époque donnée, il peut y avoir des notes antérieures ou postérieures. En l'occurrence, et lui-même renvoie à l'essai sur l'histoire des religions de Max Müller de 1872, qui rentre donc dans la fourchette concernée. En l'occurrence, cela ne vient pas de cet essai, cela vient d'un ouvrage plus tardif, qui est très exactement pour la traduction française, puisque c'est celle-là qu'a utilisé Flaubert, de 1879. Ce sont les lectures qui ont été faites par Max Müller en 1878 et publiées la même année en anglais, l'année suivante en français, lectures sur l'origine et le développement de la religion. Ça date donc de 1879. Autrement dit, l'ouvrage concerné, c'est Bouvard et Pécuchet. On y reviendra. Alors, pour comprendre, pour mettre en situation, pour recontextualiser cette citation de Max Müller par Flaubert, il faut revenir au questionnement de Max Müller. Ce questionnement concerne donc l'origine du fait religieux. D'où vient la religion ? Qu'est-ce qui est premier dans la religion ? Alors, là aussi, je suis obligé d'aller très vite. Max Müller récuse deux hypothèses. Il récuse deux hypothèses couramment faites à l'époque. La première hypothèse est une hypothèse qui relève des religions elles-mêmes. L'hypothèse faite par les religions elles-mêmes, pratiquement toutes les religions, nous dit Max Müller, c'est l'hypothèse d'une religion, d'une révélation primordiale faite à l'humanité tout entière, qui aurait précédé par conséquent ce qu'on appelle les révélations historiques. Révélation, par exemple, judaïque ou la révélation chrétienne. Une révélation primitive, une révélation primordiale, qui serait l'origine du phénomène religieux. Que cette révélation soit externe ou interne. La deuxième hypothèse, alors évidemment, en tant que scientifique, Max Müller, même s'il est luthérien, même si en apparence il se dit chrétien, on y reviendra, ne l'accepte pas. N'accepte pas l'idée de révélation comme fondement de l'idée religieuse. La deuxième hypothèse qui est faite à l'époque par la science contemporaine, c'est l'hypothèse du fétichisme. Cette science contemporaine, c'est évidemment la science anthropologique. Un mot de cette science anthropologique, il va de soi que si le mullérisme, si je puis ainsi parler, s'est rapidement imposé dans le monde savant, il a été assez vite contesté, évidemment, par d'autres écoles, dans la mesure où pour Max Müller, la mythologie est vide, elle est déshumanisée et elle est naturalisée. Alors, il fallait naturellement que d'autres hypothèses vinssent remplacer la mythologie müllérienne, c'est l'hypothèse anthropologique. Et cette hypothèse anthropologique, c'est celle de Tylor, c'est celle de Lang, c'est celle de Fraser, qui vont remettre l'homme au centre de la mythologie, et qui vont redonner par conséquent un contenu anthropologique à la mythologie. Il se trouve que Max Müller a vécu assez vieux pour connaître cette contestation de sa propre interprétation par l'anthropologie, qui invoque, elle, des principes explicatifs différents. L'animisme, le fétichisme, le totémisme, le culte des ancêtres. Max Müller, dans son dernier ouvrage sur la mythologie qui date de 1897, continue d'affirmer que l'école philologique qui est la sienne est la plus véridique. Parce qu'à ses yeux, l'école anthropologique outrepasse ses compétences. Il est prêt à accepter un certain nombre de propositions de l'école anthropologique, mais il considère qu'il y a chez les anthropologues un déficit de savoir linguistique. Et surtout, il y a une outrecuidance au sens propre dans la mesure où ils débordent les domaines linguistiques. C'est-à-dire qu'ils font de l'analogie au-delà des domaines linguistiques. Ce qui est évidemment très dangereux. Il suffit qu'il y ait analogie de culte pour qu'on puisse faire des analogies ou des hypothèses sur la parenté des phénomènes religieux. Donc, Max Müller maintient l'idée que l'école philologique reste la meilleure. Et en tout cas, l'hypothèse du fétichisme, elle se présente comme une hypothèse séduisante dans la mesure où les défenseurs du fétichisme considèrent que le fétichisme n'a pas besoin de présuppositions. Il est la véritable origine du phénomène religieux. Le fétichisme ne présuppose rien. Eh bien, ce que va faire Max Müller, c'est contester à la fois l'idée d'une révélation primitive, primordiale, et contester l'idée que le fétichisme ne présuppose rien. Cette réfutation, elle se trouve dans le passage que Flaubert a repris partiellement. Alors, vous avez la longue citation que je ne vais pas relire en entier. Vous avez en gras la reprise par Flaubert du passage de Max Müller, et vous verrez qu'il y a quelques aménagements, quelques modifications qui ne trahissent pas en fait l'idée essentielle. L'idée essentielle donc, c'est que Müller, d'une part, récuse l'idée d'une révélation primordiale extérieure. Il récuse d'autre part l'idée d'une révélation primordiale intérieure. Et il récuse aussi le fétichisme. Au nom de quoi ? Au nom du fait que le fétichisme suppose lui aussi, présuppose lui aussi, qu'il le veuille ou non, une forme de révélation. Et c'est le sens de la citation. Si les mots étaient des raisons, c'est le troisième paragraphe, nous dirions que toutes les idées religieuses qui dépassent la perception des sens doivent leur origine à une sorte de révélation extérieure. Le mot fait bien, et il n'est guère de religion qui n'élève quelques prétentions de ce genre. Mais traduisez cet argument tel que nous le rencontrons tous les jours dans la langue du fétichisme et vous verrez combien il est vide et impuissant à résoudre la question d'origine. Demandez à un prêtre à Chantilly d'où il sait que son fétiche n'est pas une pierre ordinaire, mais quelque chose d'autre. S'il vous répond que le fétiche lui-même le lui a dit, le lui a révélé, que répondrez-vous ? Et pourtant, c'est en somme l'argument même sur lequel repose la théorie de la révélation primitive, sous quelque déguisement qu'elle se cache, d'où l'homme a-t-il su qu'il y a des dieux ? C'est que les dieux mêmes le lui ont dit. Donc ce qui est en maigre, ce sont les passage que Flaubert n'a pas repris de Max Müller. Est-ce que Flaubert trahit ici Max Müller ? Non, parce que dans l'esprit, l'idée concerne au fond toute forme de révélation qui est discréditée par quoi ? Par le fait qu'elle est un argument circulaire. Puisque Flaubert travaille à l'époque pour Bouvard et Pécuchet, où trouvera-t-on l'écho de ceci dans Bouvard et Pécuchet, évidemment au chapitre 9, dont on a déjà abondamment parlé. La discussion avec le curé, c'est sur la deuxième page. Nier la révélation, ce sera plus simple. Comment voulez-vous que Dieu ait parlé, dit Bouvard ? Prouvez qu'il n'a pas parlé, disait Geoffroy. Encore une fois, qui vous l'affirme ? L'Église. Deuxième exemple, toujours dans le même chapitre 9, qui est toujours un exemple de circularité, d'argument circulaire, qui procède en somme de la citation de Max Müller. Un mot. Si la valeur du martyr dépend de la doctrine, comment servirait-il à en démontrer l'excellence? Troisième argument circulaire, pas de miracle en dehors de l'Église. Tiens, se dit Pécuchet, même argument que pour les martyrs, la doctrine s'appuie sur les faits et les faits sur la doctrine. En somme, ni révélation extérieure, ni révélation intérieure, ni fétichisme pour Flaubert. Le fétichisme n'explique rien, et en tout cas, il n'est pas originel. Pour qu'il y ait fétichisme, il faut qu'il y ait déjà du religieux. Alors, quelle est l'origine du religieux? Là aussi, j'irai très vite, ça nous permettra de retrouver rapidement le deuxième exemple de Flaubert. L'origine du religieux... Max Müller va essayer de la reconstituer à partir d'une réflexion sur ce qu'est l'homme sans révélation. Et l'homme sans révélation, c'est l'homme qui dispose de ses sens et de sa raison. Voilà les deux capacités humaines, les sens et la raison. À quoi s'ajoute évidemment cette hypothétique faculté de foi ou ce notiet de la foi ou de l'infini? D'où procède ce notiet de la foi ou de l'infini par rapport à quelqu'un qui est doué de sens et de raison? Eh bien, partons des sens, puisque c'est ce qui est primordial, et Max Müller considère qu'il y a trois sortes d'objets. Trois sortes d'objets: les objets tangibles, c'est-à-dire les objets qui s'adressent au sens dit archéotérique ou paléotérique, donc les sens les plus primitifs, le toucher, le goût, l'odorat, sont les objets tangibles. La pierre, par exemple, c'est un objet tangible. Le bout de bois, c'est un objet tangible. L'animal, c'est un objet tangible. Tous ceux qui sont susceptibles de devenir des fétiches en particulier. La deuxième catégorie, ce sont les objets semi-tangibles. Ces objets semi-tangibles sont toujours tangibles, mais ils ne sont que partiellement tangibles. Par exemple, l'arbre n'est le plus souvent que partiellement tangible. Le fleuve n'est que partiellement tangible. C'est-à-dire, on peut en toucher une partie, mais on n'a pas accès à l'intégralité de l'objet. Évidemment, ces objets semi-tangibles suggèrent déjà une espèce d'au-delà du sensible. La troisième catégorie d'objets, c'est la catégorie des objets intangibles. Ces objets intangibles, ce sont ceux qui ne peuvent être appréhendés que par la vue et par l'ouïe. Surtout la vue. Par exemple, le ciel, par exemple, les étoiles. Ce sont des objets absolument intangibles, et pour autant, ils sont perçus par les sens, ils existent. Et naturellement, c'est pour Max Müller ces objets semi-tangibles et ces objets intangibles qui sont à l'origine de la faculté de foi, disons de la faculté de l'infini, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a un au-delà de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut appréhender. Voilà par conséquent comment se réalise pour Max Müller la pédagogie religieuse de l'humanité. C'est un apprentissage progressif des objets tangibles aux objets intangibles. Cet apprentissage religieux de l'humanité, pour aller très vite, va prendre trois formes que l'on va retrouver très rapidement. Ces trois formes. La première forme, c'est un terme qui n'est pas très commun. La première forme, c'est l'énothéisme védique. L'énothéisme, donc, des Védas. La deuxième forme, c'est le polythéisme des Grecs. La troisième forme, c'est le monothéisme chrétien. Alors, qu'est-ce que l'énothéisme, H-E-N-O? C'est, on pourrait dire, ce n'est pas du polythéisme et ce n'est pas du monothéisme non plus. Max Müller appelle énothéisme ou caténothéisme un système, une mythologie ou un système de Dieu où, dans l'esprit de celui qui invoque son Dieu, même s'il y a une pluralité de dieux, ce Dieu est unique au moment où il le prie. Autrement dit, c'est une espèce de monothéisme subjectif. Et c'est, pour Max Müller, la caractéristique du système des Védas. C'est un énothéisme. De l'énothéisme, on serait passé au polythéisme grec, par exemple. Et du polythéisme grec, on serait passé au monothéisme chrétien. Alors, le point d'arrivée, dira-t-on, c'est toujours le christianisme, Et là encore, Max Müller prête au soupçon de téléologie chrétienne, comme si le christianisme c'était toujours la fin de l'histoire. En réalité, les choses sont bien moins simples qu'il n'y paraît. Même si, à la lecture de tous les ouvrages de Müller, on a le sentiment de quelqu'un qui parle à partir de préjugés chrétiens. Il n'empêche que ce préjugé chrétien est très fortement suspect, suspect d'être largement une courtoisie à l'époque, surtout à l'époque victorienne, dans une Angleterre qui est ce qu'elle est. Et Max Müller met en scène un contradicteur dans son livre même, sur l'origine et le développement de la religion. Ce contradicteur, c'est l'une des dernières citations que j'invoquerai. C'est la citation 16. Voici ce que dit le contradicteur. « C'est vrai que le chemin menant les Ariens védiques au polythéisme, au monothéisme et à l'athéisme. Mais après la négation des vieux, des vains ou dieux, ils n'eurent de cesse de trouver ce qui était plus haut que les dieux, le vrai soi du monde et en même temps leur propre vrai soi. Quant à nous, nous ne sommes pas différents des Ariens. » Autrement dit, pour le contradicteur moderne, le véritable terme, c'est l'athéisme. Au-delà du christianisme, au-delà du monothéisme chrétien, il y a en fait l'athéisme. L'athéisme qui serait le véritable aboutissement du système de Max Müller. Max Müller se défend très mollement contre cette tentation de l'athéisme et il dit lui-même qu'au fond, même s'il revendique un vrai christianisme, ce vrai christianisme peut être considéré comme une forme d'athéisme. Et là, on n'est pas très loin non plus de Renan. Il y a une duplicité de tous les discours sur la religion au XIXe siècle. Et on répugne à se débarrasser de l'idée de Dieu, même lorsqu'on se débarrasse de la réalité de Dieu. On continue à parler de Dieu, par précaution, pour défendre des positions, etc., en fonction de la culture dans laquelle on vit. En tout cas, Max Müller reconnaît qu'au fond, tous les réformateurs ont été accusés d'athéisme. Autrement dit, on peut être athée et défenseur du véritable christianisme. Mais quel est ce véritable christianisme? Évidemment, ce n'est plus un christianisme révélé et transcendant. C'est un christianisme, au fond, qui est immanent. C'est un christianisme qui se confond, alors on pourra avoir le choix, soit avec un christianisme à la mode Feuerbach, christianisme intérieur, soit avec une espèce de bouddhisme chrétien, c'est-à-dire un christianisme qui évoque ce que la traduction appelle ici le « moi », mais qui en anglais est le « self », qui peut se traduire aussi bien par le « moi » que par le « soi ». Et on sait que Mallarmé, lui, utilisera cette formule « soi », Mallarmé qui a lu Max Müller, pour désigner la divinité qui est une divinité intérieure et immanente. Il n'y a sans doute pas de hasard. Donc, là aussi, Max Müller semble aboutir à cette forme de christianisme purement intérieur, qui est au fond l'élément commun de toutes les religions. Et l'athéisme est peut-être, l'athéisme au sens où c'est la négation d'une religion transcendante et extérieure, l'athéisme c'est peut-être au fond le fond commun de toutes les religions. Le livre de Max Müller sur l'origine et le développement de la religion se termine sur une méditation sur le devenir de la religion. Au fond, que fait l'archéologue des religions? Il creuse la crypte sous l'église. Et on sait que la crypte, c'est toujours une église primitive. Sous l'église actuelle, on découvre une église primitive, qui est crypte, une église cachée. Eh bien, il s'agit d'exhumer cette église cachée. Alors, en l'occurrence, pour Max Müller, il s'agit de décrypter la crypte des religions ariennes, des religions indo-européennes, mais il envisage le temps où la science permettra de décrypter la crypte universelle, celle de toutes les religions. Et voici en quels termes il conclut. Cette crypte si étroite, citation 17, si étroite encore et si obscure est pourtant visitée déjà par le petit nombre de ceux qui fuient l'assourdissement des voix, l'éblouissement des lumières, le conflit des opinions, qui sait? Le temps la verra peut-être s'élargir et s'éclairer, et cette crypte du passé deviendra peut-être quelque jour l'église de l'avenir. Voilà quel est le devenir, sous le signe du peut-être, de cette crypte que s'applique à exhumer l'archéologue des religions, qui n'est pas simplement donc le déconstructeur des mythes, mais quelqu'un qui a une pensée globale, même si elle est marquée par les déterminismes de son temps, même si elle est contestable. Et pour terminer, je pourrais citer le point de vue de quelqu'un qui est bien placé pour avoir une idée actuelle de Max Müller, c'est Claude Lévi-Strauss, sa dernière citation. Max Müller et son école ont eu l'immense mérite de découvrir et de déchiffrer en partie le code astronomique qu'utilisent souvent les mythes. Leur erreur, celle aussi de tous les mythologues de cette époque et d'autres plus récents, fut de vouloir comprendre les mythes au moyen d'un code unique et exclusif, alors qu'il y en a toujours plusieurs à l'œuvre simultanément. Voilà un point de vue qui a le mérite de n'être pas réducteur sur Max Müller, qui lui-même est parfois très réducteur. Mais pas seulement.
Magnifique exposé. On a 10 minutes, un quart d'heure pour éventuellement faire des remarques, poser des questions. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Moi, je dirais qu'il y a, au-delà de Flaubert, quelqu'un qui sait, en tout cas qui est imprégné de ces théories, c'est Proust. Je parle sous la responsabilité de. Mais l'âge des noms, l'âge des mots, l'âge des choses, il y a cette évolution de la déconstruction, de la démythification de l'âge de l'enfance et l'utilisation de ce modèle de démythification. Alors je ne sais pas si c'est Max Müller ou Max Müller à travers Maury. Moi j'avais travaillé autrefois sur la relation à Maury qui semble sur les faits, etc. Ce qui semble assez parlante pour Proust. Mais il y a cette filiation de la démythification, enfin du modèle linguistique de démythification.
Anne-Henri a consacré un livre en particulier, un chapitre de son livre. À la relation Max Müller-Proust, bien entendu, elle ne produit aucune attestation d'un contact précis, avéré entre Proust et Max Müller. Mais il y a une imprégnation. De toute façon, la doctrine de Max Müller est devenue une vulgate dans la deuxième moitié du siècle. Même si elle est contestée par les milieux savants, elle est celle qui a emporté le morceau. Par exemple, la mythologie la plus populaire à la fin du XIXe, c'est la mythologie de Decharme. Qui sera la Bible d'Apollinaire aussi. Apollinaire s'est beaucoup inspiré de la mythologie de Deschamps, et la mythologie de Deschamps, c'est un produit du müllérisme. Alors, Max Müller n'a pas besoin d'être lu être présent chez nombre d'auteurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il y a un autre point de contact possible, bien entendu, c'est par l'intermédiaire de Michel Bréal, pour Proust, puisque Michel Bréal était un cousin de Proust, et Michel Bréal était en gros un épigone de Max Müller, au moins dans ses débuts, en 1863, sa thèse, Hercule et Cacus, a été consacrée très largement à la déconstruction, sur le modèle müllérien, de la mythologie d'Hercule et de Cacus.
Je crois qu'on retrouve du Müller, mais dans le sottisier, c'est-à-dire qu'on doit retrouver l'une des citations, je ne me souviens plus laquelle, marquée d'une croix dans les carnets, enfin, sans autre commentaire, mais dans le sottisier de Bouvard-Pécuchet, mais c'est... Peut-être d'autres... Jacques, tu voulais...
Cette séduction que peut avoir la dénonciation de la tautologie, enfin, l'argument qui tourne en rond, on va revenir, Flaubert a un peu relevé ça à propos de la révélation. C'est-à-dire que Max Müller se dresse contre les arguments autologiques, tautologiques. Et ça, c'est évidemment fondamental dans la révélation de savoir. Une question que je voudrais poser, mais c'est vraiment d'un tout autre ordre. Bon, l'histoire de la déchéance des histoires mythologiques comme dégradation du philologique, à aucun moment il n'y a l'idée que les récits seraient une motivation, enfin une construction motivante du langage. Qu'en est-il du rapport à la motivation du langage? En écoutant cela, j'ignore, hein, c'est un peu une question, mais je me disais que les théories de la motivation du langage auraient place d'une certaine manière à ce moment-là. Est-ce que ça existe chez vous?
Chez Max Müller, bon, on peut repérer un courant principal qui est celui du discrédit presque absolu de la mythologie, maladie du langage, etc. Et malgré les attaques dont il est l'objet dans la deuxième moitié du siècle concernant cette expression, même de la part de gens qui sont ses disciples, qui considèrent que l'expression de maladie du langage est malheureuse, lui la maintiendra toujours. Donc il y a ce courant principal qu'on peut considérer comme réducteur. Il n'empêche qu'on peut trouver chez Max Müller de quoi le contredire lui-même, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de plus actuel, de plus moderne chez Max Müller. Il y a déjà l'embryon de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie chez Max Müller. L'école anthropologique, c'est celle qu'il appelle aussi l'école ethno-psychologique. C'est à la fois celle qui se fonde à la fois sur l'ethnologie et sur une forme de psychologie. Pour ne pas dire une psychologie des profondeurs, psychologie de l'inconscient, pour ne pas dire psychanalyse. Eh bien, on peut repérer des éléments d'une ethnopsychologie dans le discours de Max Müller sur les mythes, même s'il est parfois réducteur. Par exemple, c'est lui qui est quand même l'inventeur, et là nous sommes bien dans une dimension psychologique, de perception psychologique de la nature, c'est lui qui est l'inventeur de cette formule qu'on attribue trop souvent à Mallarmé, la tragédie de la nature. C'est lui qui produit cette expression, qui est reprise par son épigone Cox et qui sera reprise par Mallarmé. La tragédie de la nature, cela prouve bien qu'il y a une espèce de réaction humaine face à la nature, et au fond c'est l'idée qu'on trouvera ensuite exposée d'une autre façon chez Claude Lévi-Strauss, à savoir que le mythe fondamental, c'est le mythe d'Hamlet, c'est-à-dire c'est le « to be or not to be », c'est-à-dire c'est le conflit primordial du jour et de la nuit, de l'être et du néant. Et encore une fois, Claude Lévi-Strauss, lui, ne méprise pas du tout Max Müller, à la différence de beaucoup de mythographes contemporains, parce qu'il a perçu que, même si Max Müller est parfois réducteur au nom d'un esprit positif qui est de son temps, il a mis le doigt sur des aspects tout à fait essentiels qui ne sont pas périmés. Et par exemple, il y a aussi un autre mythographe d'inspiration post-freudienne psychanalytique qui s'appelle Paul Diehl, je ne sais pas s'il est connu, qui fait le lien précisément entre une certaine forme de mullérisme et la psychanalyse freudienne, en mettant le doigt sur cet aspect proprement psychique, anthropologique et psychique, du conflit primordial entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, l'être et le néant. C'est l'angoisse fondamentale de l'être humain. Autrement dit, il y a déjà un présupposé anthropologique.
Oui, ça serait clair, par exemple, dans la tentation de Saint-Antoine, dans le dernier chapitre, ces couples qui ne produisent rien sont de cette ordre-là, sont de l'ordre, justement, d'une sorte d'angoissante alternance ou alternative. Ce serait de cette ordre-là, enfin, peut-être, je ne sais pas, c'est à interroger en ce sens. Sans vouloir apporter à Müller, mais il y a bien cette idée qu'il y aurait une sorte de dualité, alors qui n'est plus du tout celle du dualisme, mais une dualité de l'opposition, le jour en nuit, lumière.
Voilà, un conflit indépassable.
Voilà, un conflit indépassable. Ça donnerait beaucoup de sens.
Sans résolution.
Ça donnerait beaucoup de sens, cette dimension de pensée, à cette dernière partie qui est quand même très compliquée à situer. Pourquoi le sphinx et la chimère, la licorne, pourrait être arrivé.
L'angoisse fondamentale de l'être primitif, et le mot primitif est employé à la fois dans son sens non péjoratif et péjoratif, on peut dire que c'est indissociable. Hein. L'être premier pour Max Müller, c'est celui qui s'interroge devant les phénomènes naturels. Et il tâche de reconstruire ce qu'est l'âme primitive devant ce spectacle fondamental, celui du soleil qui se couche. Et pour lui, la question que se pose, et qui est posée d'ailleurs dans les Védas, puisque c'est là encore son point de départ, la question qui se pose est celle de l'âme primitive qui s'interroge sur la mort du soleil. Est-ce que notre antique ami l'aurore se lèvera? Est-ce que le soleil se lèvera encore? Pourquoi? Parce que pour Max Müller, l'âme primitive n'a pas encore eu accès à la notion scientifique de loi de la nature. Autrement dit, la régularité des phénomènes célestes n'était pas encore advenue comme loi véritable. Donc, chaque soir reproduisait le même drame cosmique, la même tragédie fondamentale, qui est peut-être la tragédie fondatrice de l'angoisse humaine et qui est indépassable, puisque l'être moderne est lui aussi confronté à l'angoisse du néant.
On va s'arrêter sur ces paroles.
Angoissé.
Angoissé. Merci beaucoup pour... Alors, oui, ça, encore. Je vous donne rendez-vous alors pour le prochain...